L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM maritime, dans une vaste zone gérée par plusieurs acteurs qui nous touchent tous les jours puisque le fou est au fond de la rade de Brest. C'est le sujet de cette émission, en particulier les programmes et les actions qui visent à la préserver le plus possible. Alors ça passe par des chantiers, un travail de fond mené par des spécialistes comme nos invités, l'Office français de la biodiversité qui veille notamment sur le parc naturel marin d'Iroise et sur la rade. Ça passe aussi par le parc naturel régional d'Armorique qui veille sur les zones Natura 2000 de son territoire et la rade. Est en zone Natura 2000. C'est un milieu intéressant, la rade, tellement typique de notre coin du Finistère, entre terre, mer, eau douce, eau salée. Donc avec nous aujourd'hui, il y a Lisa Briot qui est chargée de communication du programme Life Mara pour l'Office français de la biodiversité et Agathe Larzillière qui est chargée de mission Natura 2000 pour le parc naturel régional d'Armorique. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bon, j'ai pas dit trop de bêtises dans les intitulés.
Non, c'est parfait.
Alors, le Life Mara, je l'ai juste cité, mais justement, il faudrait qu'on nous explique ce que c'est. Donc, c'est vous, Lisa Briot, qui allez nous dire de quoi il s'agit.
Oui, donc le Life Mara, c'est un projet européen donc, qui est financé pour plus de la moitié par l'Union européenne dans le cadre du programme Life. Qui est piloté par l'Office français de la biodiversité. Donc, l'équipe de coordination est basée à Brest sur le port de commerce avec 13 autres partenaires, donc aussi bien des scientifiques comme l'Ifremer que des espaces protégés comme le parc naturel régional d'Armorique. Et son objectif, c'est d'être un coup de pouce en fait, pour aider les sites Natura 2000 à préserver les habitats marins. Donc peut-être qu'on peut un peu resituer ce qu'est Natura 2000,
c'est ça,
déjà.
Ouais.
Donc Natura 2000, c'est un réseau d'espaces protégés dans toute l'Europe qui doit permettre en fait de préserver des animaux, des plantes et des habitats. Si on prend l'image d'un entonnoir, à l'échelle de toute l'Europe, il y a plus de 27 000 sites. En France, il y en a plus de 1700 à terre ou en mer. Et en France, en mer, il y en a plus de 160 qui s'occupent de ce qu'on appelle des habitats marins. Mmh. Donc,
tous ces sites, c'est des sites protégés, ce n'est pas forcément des sites Natura 2000. On est d'accord.
Tous les sites protégés sont des sites. Tous les sites Natura 2000 sont des sites protégés. Oui. En mer, par exemple, ça rentre dans la catégorie des aires marines protégées.
D'accord.
Et donc, il y a plus de 160 sites qui s'occupent des habitats marins. Donc, les habitats marins, peut-être que les gens comprennent un petit peu moins ce que c'est.
Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ?
Voilà.
Bon, si, c'est en mer, mais bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est ça.
Par rapport à un animal comme un poisson ou à une plante ou à une algue, où là, les gens peuvent plutôt bien se rendre compte de ce que c'est. Ou un oiseau, puisqu'il y a beaucoup de Natura 2000 qui s'occupent des oiseaux. Là, en fait, les habitats marins, c'est un petit peu plus compliqué. C'est sur le fond. Donc déjà, nous, on s'occupe que des habitats qui sont sur le fond, donc on appelle des habitats benthiques.
Donc sous l'eau, parce que sinon, ça pourrait y avoir des habitats d'estuaires, par exemple. Ça serait un habitat marin aussi.
En fait, à partir du moment où, à un moment de sa vie, il est dans l'eau de mer, c'est un habitat marin.
Okay.
Donc les habitats qui sont découverts à marée basse, on considère que ce sont des habitats marins.
Mais Life Mara ne s'occupe que des habitats sous l'eau.
Mais aussi des habitats, les habitats marins.
Bon, en fait, très bien.
Donc les habitats qui se découvrent à marée basse, ils s'en occupent aussi. Et donc sur le fond, en fait, on va avoir des caractéristiques, donc par exemple la température. Est-ce que l'eau est plutôt froide, plutôt chaude, de profondeur? Donc est-ce que c'est très profond et donc il y a très peu de lumière, ou est-ce que c'est très proche de la surface et donc il y a beaucoup de lumière? Et de substrat, est-ce que c'est du sable, des roches, de la vase? Et en fait, cet ensemble de caractéristiques, ça va permettre à des espèces fixées de venir s'installer. Donc des espèces fixées, ça va être aussi bien des algues que des plantes sous-marines ou des crustacés, des coquillages. C'est des espèces qui ne bougent pas, contrairement aux poissons par exemple. Et c'est cet ensemble donc d'espèces fixées et de substrats qui va former ce qu'on appelle un habitat. Et ça porte plutôt bien son nom, puisqu'en fait, le rôle de l'habitat, c'est que justement, toutes les espèces, les autres espèces marines, comme les poissons, les crustacés, les mammifères marins, ils viennent vivre dans ces habitats. Ils en ont besoin pour vivre. Ils en ont besoin pour se nourrir, pour venir déposer leurs œufs, pour se cacher. Donc, c'est vraiment l'endroit où vit toute la faune sous-marine. Et c'est pour ça que c'est très important, puisque si ces habitats sont détruits, ça va venir impacter l'ensemble en fait de l'écosystème marin où les espèces n'auront plus d'endroit où venir vivre. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à notre rade de Brest.
Enfin, dans le life marin, donc dont s'occupe l'OFB, il y a combien de zones? Enfin, c'est pas que en Bretagne, hein, c'est ça qu'il faut préciser.
Oui, c'est sur tout le littoral de France métropolitaine exclusivement. Enfin, la Corse en fait partie. Je sais jamais si la Corse fait partie de la France.
Si, on va dire ça.
c'est pas dans les Outre-mer, puisque Natura 2000 n'existe pas dans les Outre-mer.
D'accord. Et c'est par exemple quoi, alors, à part la rade de Brest?
Vous en avez un qui est en baie de Morlaix, vous en avez dans le golfe du Morbihan, vous en avez au Glénan, et après, vous en avez qui sont moins bretons, comme vous dites, en Méditerranée, vraiment, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse sur le site du Life Mara. Il y a une carte, en fait, justement, des 160 sites Natura 2000, et vraiment ça couvre une très grande partie du littoral métropolitain, vous en avez probablement près de chez vous, même en dehors de la Bretagne.
D'accord, alors après donc ce topo sur les life mara, donc on a compris que la rade était en zone Natura 2000 à Gâtelarzière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toute la rade? C'est quoi le domaine exact?
Alors, la partie vraiment Natura 2000 en rade de Brest, elle se situe dans le bassin sud de la rade de Brest. Donc, en partant de l'île Ronde jusqu'à Pénarvire, pour ceux qui connaissent, disons l'Anvéoc, c'est toute la partie est à partir de cette ligne-là. Et ça remonte jusqu'à Rosconnec, pour ceux qui connaissent, aussi la Dauphine. Donc, vraiment le pont de la Dauphine, voilà.
À Pont-de-Buis.
C'est ça, à Pont-de-Buis.
Ouais, d'accord. Donc, c'est la partie, finalement, la plus vers les terres. C'est ça, en fait, l'intérêt, peut-être. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais oui.
En fait, c'est la partie qui est un peu la plus sauvage, je dirais. On appelle ça improprement le fond de rade. Mais c'est la partie, oui, qui est la moins urbanisée, qui est restée assez sauvage. Et c'est logique, puisque si c'est un site Natura 2000, c'est parce que c'est encore préservé. Il y a encore de nombreux habitats naturels, à la fois marins et terrestres, puisque c'est un site mixte. Il y a une partie côtière aussi. Et c'est intéressant, c'est que c'est un site double, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un site Natura 2000 à la fois désigné pour les habitats naturels et les animaux, les végétaux, mais aussi pour les oiseaux hivernants. Donc on a vraiment un peu la totale en termes de Natura 2000 en rade de Brest, et ça confirme vraiment l'intérêt patrimonial de ce site.
C'est ça, ça ne se passe pas que dans l'eau, ça se passe dans le ciel aussi. Et ce site Natura 2000, par rapport au reste du parc d'Armorique, il y en a plusieurs, je suppose, d'autres des sites Natura 2000, on peut les citer vite fait quand même pour avoir une idée.
En fait, le parc d'Armorique, ça va dans les Monts d'Arrée. Donc dans les Monts d'Arrée, on a le site Natura 2000 des Monts d'Arrée, Ménézôme, Ménézmeur, Forêt du Cranou. Après, on a tout ce qui est Vallée de l'Aulne, c'est aussi Natura 2000. Après, on a la Vallée de l'Énorne. Et puis, plus au niveau marin, on va avoir tout ce qui est en Iroise, c'est-à-dire les îles Ouessant-Molensin et les parties marines qui sont autour. Et puis, Presqu'île de Crozon. Alors, nous, au parc, on ne gère pas tout ça. On travaille aussi pas mal en partenariat avec d'autres acteurs. Mais ce qui nous incombe, donc, c'est la partie rade de Brest, tout ce qui est Monts d'Arrée, Ménézôme, et Forêt du Cranou et Ménézmeur. Voilà.
Donc, pour ce qui est de la rade de Brest, on y revient. Donc vous en avez parlé un peu, mais il y a vraiment des spécificités à ce milieu, donc ça serait peut-être intéressant de creuser. Enfin, est-ce qu'il y a des espèces qu'on ne trouve que là ou...
Oui, alors la rade de Brest, sa particularité, c'est que c'est une rade, donc une baie peu profonde et abritée, avec donc peu profonde, donc des fonds qui vont de 10 à 15 mètres au maximum. Et il y a des zones un peu plus profondes, mais voilà, en moyenne, on est sur 10-15 mètres, donc c'est peu profond. Et ça, ça va être propice à des fonds marins particuliers. Alors, en rade de Brest, on a ce qu'on appelle des bancs de merles. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois, effectivement. En fait,
alors, le merle, ça s'écrit M-A-E-R-L, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça.
Ce n'est pas le merle moqueur.
C'est ça. C'est du maherle, en fait.
Maherle.
C'est un mot d'origine bretonne, je pense. Et la particularité, en fait, si vous voulez, le fond marin de la rade, c'est de la vase, principalement. Et par-dessus cette vase, on va avoir donc cette algue rouge corallienne, cette algue rouge calcaire, qui forme comme des petites boules avec plein de petites ramifications qui sont posées sur le fond, libres, donc qui peuvent un petit peu bouger, et sur quelques centimètres d'épaisseur. Et cette algue rouge, en fait, va créer donc un habitat, comme disait Lisa, qui va abriter plein d'espèces, parce que justement dans toutes ces petites interstices on a de la vie, on a de l'eau qui circule, on peut s'abriter des prédateurs, tout en mangeant tranquillement. Donc ça, c'est hyper propice à la vie sous-marine. Et donc, ça crée un habitat d'une telle biodiversité. On parle de 300 espèces au mètre carré. On parle de 1000 espèces différentes dans un banc de merle. En gros, c'est un petit peu l'équivalent d'un récif corallien en termes de biodiversité. Donc ça, c'est souvent assez méconnu. Mais c'est aussi très joli, en fait, quand on regarde des photos de fonds de merle vivants, hein, quand c'est rouge, il se trouve qu'il y a plein d'espèces fixées, des algues, il y a beaucoup de crustacés, il y a des pontes aussi d'animaux, donc ça fait comme des fleurs. En fait, ça fait un petit peu comme un jardin japonais sous-marin. Et ça mérite vraiment le coup d'œil, voilà, d'un point de vue purement paysage et puis d'un point de vue purement biodiversité. Donc c'est intéressant pour son propre intérêt de biodiversité, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue commercial, puisque dans ces milieux-là vont se développer de nombreuses larves d'intérêt économique, comme la coquille Saint-Jacques, la praire, le pétonque, les huîtres plates. Ce sont des milieux que ces espèces affectionnent tout particulièrement. Donc on a tous tout intérêt à les préserver d'une manière ou d'une autre.
D'ailleurs, vous l'évoquez, en fait, ça me fait penser, un programme comme Life Mara, met en jeu plein d'acteurs, je suppose, y compris des acteurs économiques aussi, c'est ça, ou pas du tout ?
Alors, pas directement dans les structures qui portent le projet. Par contre, on est en lien, bien sûr, avec les acteurs économiques pour essayer, par exemple, via des référentiels techniques, de leur orienter leurs pratiques pour qu'ils aient moins d'impact sur les habitats, puisque, comme disait Agathe, moins d'impact sur les habitats, ça va bénéficier à notre économie, à notre qualité de vie, à notre santé, donc à l'homme en définitive. Et je voulais juste rajouter un truc sur justement le merle de la rade de Brest, c'est que il y a à peu près 20 sites Natura 2000 en France qui ont du merle et qui doivent protéger le merle. Et quand on priorise en fait tous ces sites, c'est vraiment la rade de Brest qui arrive en haut du panier, puisque c'est un espace où l'habitat est particulièrement important, qu'il faut vraiment le préserver, en fait.
Et ça n'a jamais été exploité, ce merle-là, parce qu'il y a du merle qui a été extrait.
Si, ça a beaucoup été exploité pour amender les champs, parce que ouais, la terre est assez acide, et donc ça servait...
Comme c'est du calcaire, ça permet de rééquilibrer, c'est ça ?
C'est ça, donc ça servait notamment à amender les champs de fraises, en rade de Brest, mais pas uniquement. Et ça a été interdit. Alors, je ne me rappelle plus l'année, mais ça a été interdit. Et plus généralement, l'exploitation du merle aujourd'hui est interdite en France, en tout cas.
Mmh. Et donc, ce site le merle de la rade de Brest en fait un site unique, ou, est-ce qu'il y a des équivalents dans le monde ou...
Alors, en tout cas, en Europe, je dirais que le site Natura 2000 rade de Brest par rapport au merle se distingue très largement. On peut citer aussi Belle-Île, Baie de Morlaix. Voilà, c'est les trois. Il y a peut-être trois ou quatre sites comme ça qui vont se distinguer. Mais il y a aussi une autre particularité de ce merle en rade de Brest, c'est qu'on a un merle qui est quasi unique au monde. En fait, il y a plusieurs espèces de merle. Hein, donc c'est une algue rouge, donc il y a plusieurs formes en fait, hein, de cette algue, plusieurs espèces. Mais en rade de Brest, on a au moins deux espèces, dont une qui est unique, quasi unique au monde. On en trouve une autre station en Irlande, dans une baie qui ressemble beaucoup à la rade de Brest d'ailleurs, dans ses caractéristiques. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle communément, entre nous, on l'appelle le merle boule. Alors pour les initiés, ça s'appelle Lithophyllum fasciculatum. Et je vous invite à aller voir des photos. C'est très joli, ça fait comme des grosses fleurs en fait, un petit peu bleutées, c'est vraiment très beau.
Vous nous en donneriez une pour qu'on mette sur le site de Radio Évasion alors.
D'accord.
Et sinon, est-ce qu'il y a des espèces animales ou végétales qui sont inféodées au merle et qui sont vraiment très rares et qu'on trouve en rade de Brest ?
Alors, j'aurais pas dit ça. Disons que le merle, c'est plutôt un habitat vraiment support, un habitat structurant. En fait, si vous imaginez la vase pure, c'est vraiment très difficile pour une espèce de vivre dans la vase. En gros, il n'y a pas d'oxygène, c'est compact. Donc, dans la vase uniquement, on va avoir une forte biomasse, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'individus de trois ou quatre espèces différentes. Donc, ce n'est pas inintéressant. Ça fait, en gros, un gros garde-manger pour plein, plein d'espèces. Mais à partir du moment où on va rajouter un habitat en trois dimensions très, très, très intéressant, comme le merle, là, on augmente la biodiversité d'une manière drastique. Et c'est ça, le principal intérêt du merle. On ne va pas forcément avoir des espèces très protégées. Alors, il y a une espèce dont je vais pas arriver à me rappeler le nom latin, je suis désolée, qui effectivement est inféodée au merle, mais si je m'en rappelle bien. Hésionée panthérina, voilà. Si jamais vous voulez aller voir cette espèce, c'est très joli. C'est une sorte de verre rose à point blanc, je crois.
Panthérina, voilà.
Voilà, c'est ça, d'où le nom Panthérina. Effectivement, cette espèce-là, on la trouve dans le merle uniquement. Mais bon, je dis donc que ce n'est pas vraiment ça l'intérêt du merle. L'intérêt, c'est que c'est un habitat support pour énormément d'espèces. Donc, on va avoir des chaînes alimentaires complexes, en fait, et assez équilibrées qui vont pouvoir se mettre en place. Que c'est important que les chaînes alimentaires soient équilibrées. Sinon, si vous avez trop de prédateurs ou trop d'animaux qui mangent les nécrophages, comme on dit, ça déséquilibre le système.
C'est ça, il y aura des invasions aussi après d'espèces.
Et, quand un écosystème est robuste, quand il est équilibré, quand il fonctionne, en fait, il s'auto-protège. Il s'auto-protège de toutes les agressions extérieures, il se restaure plus facilement, il se protège des espèces exotiques envahissantes, il se protège quelque part aussi du réchauffement climatique, et il protège les autres aussi. Parce qu'il y a tout un tas d'espèces, de bactéries, de champignons, tout ça, qui vont contribuer d'une manière ou d'une autre à favoriser le bon état en fait, de santé de toutes les espèces qui vivent dans cet habitat. Donc en fait, quelque part, plus un habitat comme le merle est en bon état, et plus il rend des services. Voilà.
Alors on a compris qu'on n'avait plus le droit de l'extraire, c'est déjà une chose, mais qu'est-ce qui le menace quand même malgré tout ?
Alors, c'est une algue. Donc, une algue qui fait la photosynthèse. Donc, je dirais tout ce qui va empêcher cette algue de faire la photosynthèse est une menace. Donc, la rade de Bresse, c'est assez turbide de nature. On est quand même
trouble,
en estuaire. Voilà, trouble. Voilà, on dit c'est turbide, c'est le mot consacré. Ouais. Mais effectivement, c'est trouble. Il y a des petites matières en suspension dans l'eau, c'est logique. Il y a de la vase, il y a des apports terrigènes donc, qui viennent des terres aux alentours, etc. Puis les marées, ça brasse quand même un petit peu la vase. Bon. Mais je dirais que le merle, il est là depuis des centaines d'années. Hein, donc, il est tolérant à une certaine turbidité. Par contre, tout ce qui va aller augmenter cette turbidité, donc, je vous laisse imaginer, hein, tout ce qui peut être du dragage, tout ce qui peut être des apports terrigènes supplémentaires, donc lors des grosses pluies, par exemple, etc.
S'il y a trop de ruissellement, etc., voilà, de lessivage, quoi. Ouais.
De lessivage des sols, donc avec tout ce qui peut être lié à ça. Donc ça va être en sa défaveur. Après, plus clairement, hein, tout ce qu'on va poser en fait sur le fond, par-dessus le merle, ça va aussi entraîner sa mortalité puisque il va blanchir en fait, il va tout simplement plus avoir accès à la lumière, donc il va blanchir.
Comme les coraux.
C'est ça, bien que ce soit un végétal, mais en fait à partir du moment où il blanchit, il meurt, en fait il ne peut que se dissoudre puisque c'est du calcaire. Alors que quand il est vivant, l'algue en fait par la photosynthèse continue de fabriquer. Alors très lentement, certes, mais elle continue de fabriquer du calcaire, donc sa vie, si vous voulez. Mais si l'algue meurt, finalement, c'est voué à disparaître. Et puis, ça pousse de moins d'un millimètre par an, donc c'est forcément très, très fragile. Enfin, ce n'est pas une ressource durable, quoi. Enfin, du moins renouvelable facilement.
Oui, c'est ça. Mmh.
Et puis après, assez classiquement, comme c'est un habitat structurant, en fait, c'est la structuration de cet habitat qui est importante, donc d'avoir vraiment cet habitat en trois dimensions au-dessus de la vase et non pas mélangé à la vase et également pas en mille morceaux, quoi. Il faut qu'il soit intégral pour être vraiment utile, pour qu'il y ait toutes ces petites micro-cachettes. Donc, tout ce qui va contribuer, je dirais, à le mélanger, à le casser, à le brasser, tout ça est forcément négatif. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples. De choses, tout ce qui est abrasion physique, hein, on appelle ça de l'abrasion physique, ça va localement en tout cas pouvoir avoir un impact sur le merle.
Alors ça nous mène aux actions puisqu'on a compris les menaces. Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Alors concrètement, en fait, dans le cadre du Life Mara, il y a quatre grands axes en fait, de travail. Bon, ça correspond à ce qu'on fait déjà dans Natura 2000, mais je dirais que le Life Mara nous permet d'aller plus loin. Donc on a un volet bien sûr connaissance, donc c'est important de connaître, hein, de savoir où sont ces milieux, dans quel état ils sont.
Donc des chercheurs ou c'est vous qui faites
On est beaucoup aidés, notamment il y a Ifremer qui participe au Life Mara, puis on travaille beaucoup avec l'Institut universitaire européen de la mer, dont un des chercheurs, en tout cas spécialiste du merle. On travaille aussi sur des actions de gestion proprement dites, on travaille aussi sur de la sensibilisation, faire connaître ces milieux, etc. Et puis impliquer les acteurs locaux, que ce soit des professionnels ou des habitants même. Voilà, c'est un peu les quatre grands axes d'action. Alors concrètement, pour la partie merle, on en est plutôt à une phase d'acquisition de connaissances, parce qu'on sait où il est à peu près, mais on ne sait pas dans quel état il est.
Et comment ça se passe cette recherche ? Alors il faut y aller avec un observeur des mers
En fait, le seul moyen, effectivement, c'est d'y aller en plongée.
Ah ouais, voilà.
Alors bon, comme on n'a pas tous plein de plongeurs dans nos structures, en fait, on travaille en partenariat avec des clubs de plongée. On appelle ça la science participative. C'est-à-dire qu'on essaye d'impliquer et de motiver, quelque part, les plongeurs à contribuer à une meilleure connaissance de cet habitat, mais aussi d'autres habitats marins. Et on leur a proposé un petit protocole très simple. Ça reste compliqué, tout ce qui est sous l'eau est compliqué, mais un petit protocole de prise de clichés, en fait, sous l'eau. Ensuite, l'analyse de ces photos sous-marines permet de mettre le merle dans telle ou telle catégorie. Donc, très bon état, moyen état, mauvais état, en se basant sur des références de couleurs. Hein, si le merle est vivant, il est rouge. Quand il est moribond, on va dire, il est un peu orange. Et puis, quand il est mort, il est blanc. Et puis, sur un certain nombre d'espèces un peu caractéristiques quand même, qui témoignent du bon ou du mauvais état de ce merle. Donc, par exemple, quand vous avez un merle bien rouge, bien vivant, enfin intégral, avec des éponges, des oursins, etc., tout ce genre d'espèces, là, on peut mettre tout de suite ça dans la catégorie « c'est un merle en très bon état ». Au contraire, quand vous avez un merle en 1000 morceaux et blanc, enfin orange pâle blanc, là, c'est la catégorie « mauvais état ».
Donc voilà. Là, pour l'instant, c'est en cours. Vous ne pouvez pas dire, en gros, quel est l'état du merle de la rade, quoi.
Non, pour le moment, on est en train, entre guillemets, de calibrer, en fait, notre protocole. C'est-à-dire qu'on a proposé aux plongeurs de plonger sur des sites dont on connaissait déjà l'état de conservation, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres analyses de fait, de manière beaucoup plus précise, avec des prélèvements, etc., par les scientifiques. Et donc, comme on connaît l'état de conservation, ben, en comparant les photos avec cet état de conservation, ça va nous permettre d'avoir un petit peu un référentiel qu'ensuite on va pouvoir déployer sur d'autres sites dont on ne connaît pas encore l'état de conservation.
Donc vous leur indiquez quand même aux plongeurs à quel endroit vous aimeriez qu'ils plongent, quoi.
Voilà, on a une dizaine de sites. Bon, pour le moment, les photos ont quasiment été toutes faites sur ces 10 sites. Et là, maintenant, c'est le scientifique là, qui entre en jeu et qui doit, en comparant les photos avec l'état de conservation qu'il connaît par ailleurs, nous fournir un état de référence pour chaque type de photo.
Et le travail avec les professionnels, c'est plutôt, j'imagine, les pêcheurs et les conchyliculteurs, non ?
Alors, dans le cadre du Life Mara, on travaille avec les professionnels, mais on va dire plutôt par le biais de la sensibilisation, etc., de l'implication. Après, les professionnels, ils restent aussi maîtres de leur... des enjeux et ils sont aussi gestionnaires en fait du milieu, donc ils pilotent aussi par ailleurs des actions pour préserver le milieu. Pour exemple, nous on a travaillé là avec le milieu de la conchyliculture. On a, grâce à l'État et à Mara, on a pu bénéficier de financements qui nous ont permis d'enlever des macro-déchets. Donc des macro-déchets, c'est-à-dire des déchets
qu'on
très
voit.
Gros.
Ils ne sont pas forcément énormes, mais on les voit
sous l'eau, à l'œil nu. Et qui étaient issus en fait, des parcs conchylicoles avoisinants. On a pu les enlever sur un banc de merle, justement le merle boule dont je parlais tout à l'heure. On a pu enlever 6 tonnes de déchets donc grâce à ces financements. Et en fait, ça nous a permis en fait de commencer une discussion vraiment très intéressante et de fond avec la profession conchylicole pour continuer cette démarche d'enlèvement de macro-déchets. Parce que en fait, ce sont souvent des grosses concessions, des structures de captage qui s'échappent en fait, des parcs lors des tempêtes, etc., et qui échappent un petit peu à la surveillance des conchyliculteurs. Mais aussi pour essayer de prendre encore plus en compte le merle, et notamment le merle boule, essayer de voir comment on pourrait conjointement soit imaginer des nouveaux procédés pour avoir un impact minimal, soit carrément avoir des zones un petit peu plus protégées. Voilà. Donc on est en pleine discussion. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Natura 2000, c'est vraiment un outil qui met tout le monde autour de la table et pour lequel en fait, tout le monde doit se sentir acteur de la préservation de la biodiversité d'un site. Ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est vraiment quelque chose de participatif. Et le Life Mara, en tout cas, nous permet vraiment d'arriver à cette dimension, de cette dimension-là.
Et permet notamment des journées grand public comme celle qui vient samedi, dont on va donner le programme. On a 1 minute 30.
D'accord. Alors, donc effectivement, il y a 6 manifestations auxquelles vous pouvez encore vous inscrire. Donc le but, c'est de mieux connaître la rade, son fonctionnement et pourquoi pas agir si vous le souhaitez. En tout cas, proposer des actions pour agir.
Par exemple,
il y a un chantier participatif pour lutter contre une plante invasive, par exemple l'aspartine américaine.
On connaît bien au fond.
C'est avec moi, voilà, c'est ça. Donc, ce sera à TBD, à l'hôpital Canfroute. Vous avez une sortie avec un pêcheur de loisirs professionnel, hein, donc qui va vous former à la pêche aux poissons, hein, ou à la pêche durable et écologique. Vous avez une sortie sur un bateau de moulin-mer pour découvrir les fonds marins à l'aide de caméras sous-marines. Donc là, on va vous faire découvrir le merle et les herbiers. Vous avez une sortie pour expliquer le lien entre les bassins versants et la qualité de l'eau de la rade de Brest. Donc là, c'est l'établissement EPAGA qui vous propose cette animation. Une sortie pour mieux comprendre le problème des microplastiques et des macro-déchets sur les Lornes, donc avec l'établissement
le syndicat de bassins de la Lorne.
Et la dernière qui m'échappe.
Eh bien, la lutte contre les espèces invasives, on en a parlé, non ? C'est l'aspartine.
Et le merle, bien sûr. Oui, voilà, avec les, bien sûr, avec les plongeurs de l'association ACDC au four à chaud à Plougastel qui vont vous expliquer justement comment ils ont procédé pour mieux connaître l'état de conservation du merle dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure.
D'accord, bon, ça c'est samedi, donc qui vient, samedi 12 juin, mais de toute façon, il y aura d'autres rendez-vous. Plus tard, mais on y reviendra.
C'est le début d'une longue série.
D'accord. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues nous parler.